pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'Info et Québec Science. Quand les cours donnent des ailes, des élèves apprennent à piloter un avion en classe. Un texte de Clémence Tessier, paru le 11 juillet 2026 dans les As de l'Info. À l'école, tu apprends les maths, le français, les sciences. Mais que dirais-tu si tu pouvais aussi apprendre à piloter un avion? C'est exactement ce que font 8 élèves d'une école secondaire à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, prêt pour le décollage? Je t'explique. Cette année, à l'école Saint-Patrick, 8 élèves de 16 et de 17 ans ont participé à un nouveau programme. De septembre à juin, ils ont passé la fin de chaque journée chez la compagnie aérienne Summit Air, pour apprendre le métier de pilote. D'abord, ils ont appris tout ce qu'il faut savoir sur les commandes et le fonctionnement d'un avion. Ensuite, ils sont passés aux choses sérieuses. Ils ont commencé à voler avec un instructeur. Ils devront accumuler environ 70 heures de vol avant de pouvoir passer leur examen de Transport Canada. Une fois celui-ci réussi, ils obtiendront leur licence de pilote privé, ainsi que leur blouson d'aviation remis pour souligner leurs efforts. Mais ce programme ne sert pas seulement à faire découvrir l'aviation aux élèves. Il vise aussi à former plus de pilotes dans le Nord et à encourager les jeunes à y rester pour travailler plus tard. Pourquoi? Parce que de nombreuses communautés nordiques dépendent de l'avion pour se déplacer et faire venir de la nourriture ou des marchandises. Une passion qui prend son envol. C'est incroyable! C'est mon rêve depuis que je suis tout petit, a confié Leander Dunn, un des élèves qui suit le programme à un journaliste de Radio-Canada. Le jeune homme aime tellement les avions que sa mère et lui ont déménagé à Yellowknife pour qu'il puisse s'inscrire au programme de pilotage. Quand j'étais petit, si je pleurais, mes oncles m'installaient devant l'ordinateur et me faisaient regarder des vidéos d'avions. Ça me calmait tout de suite, se souvient-il. Même chose pour Nicolas Graham, un autre futur pilote de l'école Saint-Patrick. Je viens d'une Première Nation, près de Hay River, une ville située dans les territoires du Nord-Ouest. Je n'ai pas eu beaucoup de modèles dans le domaine de l'aviation dans ma vie. À tous les enfants des Premières Nations, vous pouvez faire ce que vous voulez et poursuivre vos rêves, a-t-il confié à Radio-Canada. Et toi, si tu pouvais apprendre un métier à l'école, lequel choisirais-tu? Pathologiste judiciaire. Un texte paru le 3 juillet 2026 dans Québec Science. Un corps, des rubans jaunes, des combinaisons blanches, une véritable scène de crime tout droit sortie d'une série policière. C'est aussi le travail des pathologistes judiciaires. En salle d'autopsie puis en laboratoire, ces professionnels réalisent un véritable travail de détective. S'agit-il d'une femme? À quand remonte la mort? Avec quelle arme? En collaboration avec les policiers, ces spécialistes doivent faire parler les morts pour révéler la cause du décès et relever le maximum d'indices pouvant trahir l'identité du meurtrier. Une fois l'enquête bouclée, les pathologistes judiciaires doivent rendre une expertise devant les tribunaux lors du procès. Yann Dazé est pathologiste judiciaire. Yann a obtenu son diplôme le 30 juin 2010 en anatomopathologie, une spécialité médicale qui s'intéresse aux altérations des tissus et des cellules provoquées par la maladie. Deux mois plus tard, il a intégré l'équipe du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Voici une entrevue avec Yann Dazé, réalisée par l'équipe de Québec Science. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir pathologiste judiciaire? Le travail de pathologiste m'intéressait, surtout le côté diagnostic et le travail de laboratoire. Pendant mes études, j'ai réalisé un stage dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui qui m'a décidé. L'équipe qui était en place a aussi beaucoup motivé mon choix. Quelles sont les différences avec la profession d'anthropologue judiciaire? C'est complètement différent. L'anthropologue judiciaire est anthropologue de formation et s'appuie uniquement sur les os pour identifier l'âge, le sexe, la taille et les traumatismes de la victime. Je m'attarde surtout à déterminer la cause du décès, principalement dans des cas de mort violente ou suspecte. Quelles sont les qualités d'un bon pathologiste? La qualité première, c'est d'être méticuleux. Il faut aussi avoir une passion pour les défis intellectuels et avoir un gros sens des responsabilités. Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune qui veut exercer ce métier? Le premier, ne pas avoir peur du sang, car une autopsie est un acte plutôt invasif. Deuxièmement, faire une croix sur le côté contact avec le patient. Habituel en médecine, et contribuer au diagnostic. Enfin, être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie. Ce sont de très longues études, 11 années après le cégep. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? L'essence même de mon métier, le diagnostic. Je réalise des autopsies lorsque les morts sont obscures ou violentes. Je dois trouver la bonne cause du décès. C'est là que je me sens le plus utile pour la société. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Les corps sont quelquefois dans de mauvais états de conservation. Ce n'est pas hyper réjouissant, même si l'on s'y habitue. Les témoignages lors des procès sont difficiles émotionnellement et je passe parfois des journées entières au palais de justice à attendre que ce soit mon tour de témoigner. Comment s'est passée ta première autopsie? T'y es-tu habitué? Je me souviens très bien. L'université offrait la possibilité d'assister à une autopsie. J'étais étonné une fois sur place. Dans notre société, peu de gens sont confrontés à la mort ou alors dans un salon funéraire, ce qui est complètement différent. À la longue, c'est comme n'importe quel travail. Ça devient la routine. On s'habitue aux odeurs, même les plus mauvaises, à la vue des corps. Ta vision de la mort a-t-elle changé? En tant qu'être humain, je me pose des questions sur le sens de la vie, sur ce qui se passe après la mort. Mon travail n'a pas changé ma vision de la mort, mais plutôt celle de la vie. Les êtres humains peuvent être bons, mais aussi capable des pires atrocités. Une affaire qui t'a touché? De façon générale, lorsque les corps sont largement traumatisés, c'est difficile d'un point de vue professionnel et personnel. Les décès chez les enfants aussi, même si la plupart du temps il s'agit d'une mort naturelle. Je fais mon travail de façon professionnelle, mais j'essaye de garder une distance. C'est ma façon de réagir au stress lié à mon travail. T'arrive-t-il de penser à tes enquêtes en dehors du travail? Non. J'ai beaucoup de compassion pour les familles, mais j'essaye de ne pas m'y attarder. Les seuls moments où j'emmène du travail à l'extérieur du bureau, c'est lorsque je suis sur le point d'aller témoigner à la cour et qu'il faut que j'apprenne par cœur mon texte. T'est-il déjà arrivé de ne pas boucler une enquête? Oui, absolument. Grosso modo, dans 5% des cas, nous ne sommes pas capables de déterminer la cause du décès car il n'y a pas de trace à l'autopsie à cause de l'état du corps. Il faut alors reconnaître ses limites. Le décès est classé en cause indéterminée. Regardes-tu des séries policières? Sont-elles réalistes? J'en regarde quelques-unes. CSI, Dexter. Ce n'est absolument pas réaliste. Il y a une base scientifique qui peut être factuellement vraie. On parle de l'effet CSI. Lors d'un procès, les citoyens ordinaires sont surpris de nous voir incapables de déterminer la cause du décès ou de savoir si le meurtrier est gaucher ou droitier. Ce n'est jamais le cas dans les séries. Penses-tu qu'elles peuvent avoir une influence sur les criminels? Non, absolument pas. Pour réaliser le crime parfait, il vaut mieux avoir passé un séjour en prison plutôt que de regarder ces séries. Journée type. Une journée dans la vie de Yann. Yann est un lève-tôt. Vers 5h30, quand la plupart des gens dorment encore, il rédige déjà des rapports d'autopsie et regarde au microscope des tissus prélevés lors de précédentes autopsies. Il recherche des tissus cancéreux sur des organes vitaux comme le cerveau ou les poumons qui pourraient avoir entraîné la mort. À 7h, il rencontre le coroner et prend connaissance des cas pour lesquels on a demandé une autopsie. Il enchaîne à 8h avec une réunion avec les 4 autres pathologistes et 2 agents de liaison. Après s'être partagé le travail avec ses collègues, Yann commence l'autopsie vers 9h. Aujourd'hui, il s'agit d'un homme décédé depuis 2 semaines retrouvé à son domicile. Aucune trace d'effraction ni de blessure. Au bout d'une demi-journée, Yann n'a pas encore réussi à déterminer la cause de la mort. Il réalise des prélèvements qu'il va ensuite envoyer pour des analyses toxicologiques ou la recherche de maladies. Mais, contrairement aux séries policières, les résultats ne seront prêts que dans quelques semaines. En attendant, le corps va pouvoir être remis à la famille. Quelquefois, une autopsie peut l'occuper pendant une journée entière. Vers 16h, Yann peut rentrer chez lui. Une 20aine de fois par an, il est appelé à témoigner en cours. Études. Le parcours académique de Yann. Yann a obtenu un DEC général en sciences de la nature au Cégep Hansik à Montréal. Il a ensuite été accepté en médecine et a réalisé son doctorat pendant 5 ans à l'Université Laval. Avec le diplôme de médecin en poche, Yann ne pouvait pas encore pratiquer. Il a opté pour une résidence en anatomopathologie de 5 ans à l'Université Laval. Il a réalisé des stages en lien avec sa spécialité en médecine, en chirurgie, puis en pathologie, notamment judiciaire, pendant 2 mois dans le service dans lequel il travaille actuellement. Pour pouvoir travailler au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, il a passé un concours gouvernemental qui lui donne maintenant le statut de fonctionnaire. Il a été ensuite formé en interne. Au Cégep, DEC en sciences, 2 ans. À l'université, les personnes candidates doivent d'abord réaliser une maîtrise en sciences d'une durée d'1 an avant de faire un doctorat de premier cycle en médecine. Au Québec, 4 universités offrent la formation en médecine. Université Laval, Québec, Université McGill, Montréal, Université de Montréal, Université de Sherbrooke. Chaque formation comprend une période de pré-externa et d'externa pendant lesquelles les personnes étudiantes réalisent des stages pratiques. Il faut avoir fait une surspécialité en dehors du Québec pour exercer en tant que pathologiste judiciaire. Et après? Au Québec, les pathologistes judiciaires peuvent travailler uniquement au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. Et toi, quelle profession voudrais-tu apprendre? un festival autochtone débarque dans Roblox. Un texte de Clémence Tessier, paru le 13 juillet 2026 dans les As de l'Info. Tu connais sûrement Roblox, le célèbre jeu vidéo dans lequel des millions d'utilisateurs créent leur propre monde virtuel. Mais savais-tu que cet été, tu pourrais assister à un festival directement sur cette plateforme? Oui, oui. Voici comment un festival autochtone de la Saskatchewan au Canada s'est retrouvé dans ce jeu vidéo très populaire. Cette année, pas besoin de te rendre en Saskatchewan pour prendre part aux festivités. Tu pourras les découvrir directement dans Roblox. Les gens qui n'auront pas la chance de se rendre à Batoche auront l'occasion d'amener Batoche vers eux. C'est une partie de l'expérience pour qu'ils puissent vivre à leur manière, a expliqué Andrea Fiss, directrice des sports et de l'éducation de la petite enfance de la nation métisse de la Saskatchewan, à Radio-Canada. Le festival Back to Batoche est un événement de 4 jours où on célèbre la culture métisse. Les Métis sont l'un des 3 peuples autochtones du Canada, avec les Premières Nations et les Inuits. Ils ont une culture et une langue bien à eux. Le festival a lieu à Batoche, en Saskatchewan, depuis plus de 50 ans. Au programme, danse, musique, contes et arts traditionnels. Jouer et célébrer sans quitter la maison. Le festival a collaboré avec Masqua Games, un studio qui crée des jeux vidéo. Ce sont eux qui se sont occupés de construire cette version virtuelle de Back to Batoche dans Roblox. Dans le jeu vidéo, il y aura plusieurs activités inspirées du vrai festival. Par exemple, les joueurs pourront visiter un espace pour enfants, participer à des courses de chevaux ou s'essayer au lancer de haches. Ils pourront aussi discuter et se déplacer ensemble dans l'univers virtuel. Et à Batoche, des tablettes électroniques seront prêtées aux visiteurs du festival pour leur permettre d'essayer le jeu. Quelle activité de festival préfères-tu? La musique et les spectacles? La danse? Les jeux? La nourriture et les kiosques? Je ne suis jamais allé à un festival? Apprendre une langue en jouant? Le projet veut aussi faire connaître le Mi'kmaq, une langue parlée par plusieurs Métis. Le Mi'kmaq mélange surtout le français et des langues autochtones. Par exemple, le mot Mi'kmaq veut lui-même dire « métisse ». Aujourd'hui, peu de personnes le parlent encore. Dans le jeu, les joueurs pourront apprendre certains mots en Mi'kmaq. Avant sa sortie officielle, le jeu sera testé par des jeunes adultes de la nation métisse de la Saskatchewan. Et toi, si tu pouvais créer ton propre festival, qu'est-ce qu'on y célébrerait? Profession technicien dentaire. Un texte paru le 19 juin 2026 dans Québec Science. Tu t'es cassé une dent et tu as besoin d'une couronne pour la remplacer? Vite, un technicien ou une technicienne dentaire et de la porcelaine à la rescousse. Du dentier de ta grand-mère à l'implant dentaire de ton père, les techniciens et techniciennes dentaires sont des joailliers du sourire. Et pourtant, leur métier est peu connu, car les patients et patientes ne les rencontrent jamais. Ce sont les dentistes ou les denturologistes qui effectuent les essayages. Les techniciens et techniciennes dentaires sont des personnes très minutieuses, qui doivent faire preuve d'une grande dextérité manuelle, puisqu'ils et elles sont appelés à fabriquer de petits objets qui doivent s'intégrer soit à une prothèse, soit directement à la bouche des patients. Ces spécialistes doivent aussi avoir une âme d'artiste pour arriver à un résultat à la fois joli et confortable en bouche. Heureusement, l'informatique vient leur prêter main forte. On conçoit des prothèses de façon virtuelle avant de les matérialiser grâce à des machines sophistiquées. Simon Leclerc, technicien dentaire. Simon co-dirige un laboratoire dentaire depuis 1987 à Laval. 16 personnes y travaillent. Des prothèses et des couronnes, l'équipe en a fabriqué des milliers. Entrevue. Entrevue avec Simon. Qu'est-ce qui t'a poussé à exercer ce métier? C'est un métier qui permet de créer à partir de peu de choses. Des vis, une meule, des outils et quelques matériaux. Avec un bout de métal, je peux construire les piliers de soutien d'une couronne. J'utilise de la porcelaine pour la couronne elle-même, de l'acrylique pour fabriquer des dents, de l'or pour les blocs métalliques coulés qui servent à reconstituer la forme d'une dent. Évidemment, l'informatique et la robotique sont des outils incontournables. Mais à la base, c'est très stimulant de penser qu'il y aura quelqu'un qui utilisera le résultat de notre travail pour manger. Avec les années, as-tu développé une fixation sur les dents? Au début, il faut avouer que la curiosité et aussi le désir de voir les différences d'une bouche à l'autre font en sorte que les dents deviennent un peu une obsession. Mais cela s'atténue avec le temps. Combien de temps cela prend-il pour fabriquer un dentier? Environ 6 heures suffisent à fabriquer un dentier, que nous appelons prothèse complète amovible, en laboratoire, sauf s'il est peu conventionnel. Si le menton du patient est plus avancé que la normale, par exemple, et que sa bouche ferme moins bien, il arrive que le temps nécessaire soit plus long. Y a-t-il des problèmes de dents impossibles à réparer en laboratoire? Certainement. Il y a des gens qui attendent trop longtemps avant de consulter leur dentiste ou leur denturologiste. Par exemple, si quelqu'un porte une prothèse depuis 20 ou 30 ans, les tissus des gencives s'affaissent et il devient très difficile d'en reconstruire une nouvelle parce qu'elle ne peut tout simplement plus tenir en place. Certaines maladies des gencives ou des dents trop abîmées peuvent aussi compliquer le traitement. Mais il y a plusieurs possibilités de nos jours et on réussit souvent à trouver une solution comme la chirurgie. Raconte-nous une anecdote amusante. Un jour, un chauffeur de taxi, qui venait prendre possession d'une prothèse pour un dentiste, a été terrifié d'entrer dans le laboratoire. Il a fallu la lui apporter dehors, emballée dans une boîte et dans un sac pour qu'il accepte de la prendre. Il était convaincu que nos prothèses étaient fabriquées avec des dents de mort. Une expérience traumatisante? Réparer une prothèse vieille de 40 ans et mal entretenue, voilà qui peut parfois être traumatisant. Cœur sensible, s'abstenir. Journée type. Une journée dans la vie de Simon. Simon arrive à son laboratoire à 8 heures. Il commence par dresser la liste du matériel qui doit être livré à ses clients dentistes avant la fin de la journée. Il rencontre ensuite ses collègues de travail afin de déterminer l'échéancier du jour et de discuter des cas problèmes, c'est-à-dire les prothèses ou autres pièces en construction qui posent des difficultés techniques. Ils essaient de trouver ensemble des solutions car le métier s'exerce en équipe et les forces et les spécialités de chacun et chacune sont mises à contribution. Vers 10 heures, il rencontre son associé, Marilyn, afin de prendre certaines décisions administratives pour le laboratoire et échanger quelques conseils techniques sur les prothèses en cours de fabrication. Chacun s'en va par la suite accomplir ses tâches. C'est alors que Simon sort ses outils pour commencer ou poursuivre la construction de ses prothèses, couronnes, ponts, etc. Après le dîner, Simon fait ses retours d'appel, vérifie l'état du travail accompli à 7 heures selon l'échéancier fixé en matinée, et se penche ensuite sur les prothèses à construire qui sortent de l'ordinaire. Il avise alors les dentistes des changements qu'il devra apporter à leur ordonnance si nécessaire. C'est vers 16h30 qu'il quitte le boulot, satisfait du travail accompli, après une journée bien remplie. Études. Le parcours académique de Simon. Simon a fait ses études au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil, le seul cégep qui propose cette formation au Québec. Au cégep, DEC en technique dentaire, 3 ans. Note. Lors de l'entrée au cégep, il faut acheter ses propres instruments de travail qui serviront durant toutes les études et lors de l'entrée sur le marché du travail. Et après, pour porter le titre de technicien dentaire et diriger son propre laboratoire, il faut devenir membre de l'Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec, OTTDQ. Cela permet de poursuivre sa spécialisation grâce à des séances de formation continue organisées par l'OTTDQ, histoire de se garder à la fine pointe de la technologie et des nouveaux matériaux disponibles sur le marché. Le technicien dentaire exerce son art dans des laboratoires dentaires commerciaux, des hôpitaux, des cliniques dentaires ou d'orthodontie, des facultés dentaires d'université, au sein d'organismes gouvernementaux ou encore pour des compagnies dentaires manufacturières. Toi, tu aimerais être un artisan?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.